À l'ombre de Concertina, l'émission en direct et en public d'ici l'ombre, depuis la Halle à Dieulefi.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Vous êtes sur votre radio locale préférée, Radio d'ici ou une autre. Et vous êtes aussi, exceptionnellement et jusqu'à dimanche, sur Ici l'ombre, la radio de Concertina, les rencontres estivales autour des enfermements. Et sur ce plateau radio aujourd'hui, je suis avec François Besse, spécialiste de l'évasion, je peux dire comme ça, sans me risquer.
Vous avancez pas trop.
Voilà, c'est une image qui reste pour vous. Et puis, on est aussi avec Dominique Simoneau, qui est contrôleuse générale des lieux de privation de liberté.
Bonjour.
Bonjour. Et qui lance un grand concours pour la recherche d'un nouveau nom pour cette fonction, pour que ce soit plus sexy, plus fun.
Sexy, ça l'est déjà énormément, ah, mais voilà. Peut-être plus court.
Voilà, peut-être plus court. Et puis, nous sommes aussi avec Gilles Chantraine, qui est sociologue, pour faire rapide.
Bonjour.
Alors, je vais reprendre un petit peu la présentation de chacun dans la mesure où je peux le faire. Et puis, vous compléterez, si je dis des bêtises aussi. Vous, Dominique Simoneau, vous avez fait des études de droit. Vous avez été éducatrice dans l'administration pénitentiaire, ce qui est devenu maintenant les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation.
Vous voyez, eux aussi, noms. Ils ont rallongé leurs noms.
Voilà, ça ne leur suffisait pas. Et puis, vous êtes aussi journaliste. Vous avez été journaliste à Libération, puis au Canard Enchaîné, où vous avez chroniqué pour les tribunaux de comparution immédiate. Donc, oui. Vous avez un petit peu sillonné pas mal de tribunaux en France,
oui.
pour ces chroniques-là.
D'ailleurs, des villes de France, je ne connais presque que les tribunaux.
Et voilà. Il y en a qui connaissent les prisons, d'autres les tribunaux. Vous allez pouvoir...
Maintenant, je sais. Voilà. Maintenant, c'est les prisons.
Oui, il manquait quelque chose.
Voilà, il manquait un petit quelque chose. Et puis, heureusement, maintenant, vous êtes à Dieulefi pour parler évasion. Donc, ça nous ouvre des horizons nouveaux. Et puis, vous, Gilles Chantraine, vous êtes sociologue chargé de recherche au Centre Lillois d'études sociologiques et économiques. Heureusement, il y a plus court, on dit le Clercé, c'est ça?
Oui, je suis chercheur au CNRS au Clercé.
Voilà, oui, parce que c'est une unité.
C'est le nom
de...
du laboratoire, voilà. qui est une UMR, puisqu'on adore les acronymes. Donc, qui est effectivement un laboratoire CNRS, Université de Lille.
D'accord. Voilà. Et vos recherches sont sur l'évolution de la prison au regard des crises crise sanitaire, radicalisation, ces crises biopolitiques?
Oui, ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur l'univers carcéral et j'essaie de comprendre effectivement à la fois comment il se reproduit et comment il change. Alors dernièrement, c'est vrai que j'ai eu un focus un petit peu particulier sur la manière dont certaines crises affecter plus particulièrement l'institution, le changement institutionnel. Et j'ai effectivement travaillé sur la manière dont, sur ce que fait la radicalisation à la prison, plutôt que fait la radicalisation aux personnes dites radicalisées, puisque je m'intéresse bien au changement de l'institution. Et puis, plus récemment encore, effectivement, à l'impact de la crise sanitaire sur le fonctionnement quotidien, ordinaire des prisons.
D'accord. Et vous, François Besse, vous êtes donc un ancien prisonnier de longue peine?
Oui.
Et vous avez testé l'évasion avec peut-être plus ou moins de réussite?
Alors, je n'ai...
Comment est-ce que vous vous présenteriez, vous, plutôt? C'est plutôt à vous de nous le dire.
Alors, je serais plutôt quelqu'un qui s'est insurgé à un moment donné vis-à-vis d'une condamnation que j'estimais... injuste et inadapté. C'est-à-dire que je me suis présenté devant une cour d'assises en disant que j'étais innocent. Et ce mot les a fait bondir. On ne peut pas arriver devant une cour d'assises en étant innocent. On est, en règle générale, coupable, puisque l'administration, la police et les juges d'instruction ont fait parfaitement leur travail pour présenter quelqu'un qui est coupable. Si je n'avais pas été coupable, j'aurais été relaxé avant. Donc je me retrouve donc devant une cour d'assises avec un avocat d'office, puisque je n'ai pas les moyens de me payer un avocat. Cet avocat me dit, vous savez, votre cas est un peu délicat. Moi, à votre place, je dirais à minima que j'ai fait un peu quelque chose pour minimiser la peine. Si vous dites que vous êtes innocent, vous allez être condamné lourdement. Donc je maintiens ma position et je dis non, monsieur, enfin maître, puisqu'il faut les appeler maître aussi, je suis innocent. Bien, il m'a dit, on y va. C'était la première fois qu'il plaidait devant une cour d'assises. Ça a duré 2 heures, peut-être un quart d'heure pour délibérer. Et ils sont revenus avec une condamnation de 7 ans de réclusion criminelle. J'ai été assommé. Je me suis dit, tiens, ben voilà, ça y est, c'est fini. Ma vie s'arrête. Je ne peux pas rester dans un milieu fermé, clos, avec des personnes que je ne connais pas et avec des contraintes aussi fortes pendant autant d'années. J'avais deux possibilités. Soit je me pendais le même soir de la sentence, soit j'imaginais pouvoir sortir de cet enfermement. Et mon cerveau, gentiment, m'a proposé la deuxième solution comme étant plus réaliste que la première.
Mais il semblerait que ce soit effectivement le cas pour l'ensemble des prisonniers, c'est-à-dire que ce désir d'évasion, c'est aussi le baromètre du moral d'un prisonnier.
Absolument, d'ailleurs.
De sa résilience ou de...
Tous les prisonniers ont une imagination d'évasion. Tous pensent refaire leur vie grâce à l'évasion en disant « quand je vais sortir », c'est déjà un principe de dire « quand je vais sortir, je vais vraiment changer et je vais sortir de tout ça ». C'est pour se sauver, en fait, se sauver de la détention, pour se sauver de cette chose qui n'a pas de sens, puisque l'administration pénitentiaire voudrait donner du sens, la société voudrait donner du sens, et dire, voilà, vous êtes condamné, vous vous repentez, et puis on vous donnera l'occasion de pouvoir vous réintégrer à la fin de votre peine si vous vous êtes bien comporté. Bien sûr, ça fait beaucoup de conditions, surtout qu'on est face à une contrainte totale, c'est-à-dire que vous n'avez absolument aucune initiative, c'est-à-dire que vous devez marcher comme l'institution vous le demande. Et ça, c'est une contrainte qui, petit à petit, inhibe toute possibilité de rêver pouvoir faire autre chose que ce qu'on a déjà fait. Parce que ça ne fonctionne pas, bien évidemment. Comment pouvoir se régénérer seul ou en compagnie de personnes qui sont exactement dans la même situation, c'est-à-dire des gens qui sont en train de dire « la prochaine fois, je sais comment je vais, je ne vais pas me faire attraper ». Donc, le cercle est bouclé.
Alors, ben justement, revenons vers les institutions dont vous parliez à l'instant, en la personne de Dominique Simoneau. Un contrôleur des lieux de privation de liberté, son rôle, c'est quoi exactement ?
D'abord, c'est une autorité administrative indépendante, c'est-à-dire que je ne dépends de personne. Je peux dire ce que je veux et aller où je veux dans tous les lieux d'enfermement, me faire communiquer tous les documents, et voir tous les gens l'institution et les 60...
Oui, parce qu'il y en a plusieurs. Oui, bien sûr, vous êtes
contrôleur
général.
Mais on est 30 permanents et 30, à peu près, 30 plutôt vacataires. Et on se rend donc dans les prisons, bien sûr, dans les hôpitaux psychiatriques, les services fermés, dans les locaux de garde à vue, dans les centres de rétention pour étrangers, dans les prisons pour mineurs, dans les centres éducatifs fermés pour les gamins.
Et vous avez cité le nombre à peu près de contrôleurs. Ça suffit pour l'ensemble de ces institutions, de ces lieux dont vous parliez ?
J'ai demandé deux postes supplémentaires au Parlement l'année dernière, mais ils m'ont donné un peu d'argent, de l'argent plutôt que deux postes, parce que ça coûtait moins cher. Je vais redemander ces postes parce qu'on en a besoin pour un peu accélérer notre rythme de visite et surtout pour rendre les rapports, nos rapports beaucoup plus rapidement.
Vous dépendez de personne, mais par contre, vous êtes libre effectivement dans vos propos, mais vos rapports, vous les rendez à l'Assemblée nationale
ou
vous les rendez,
Non, je vous explique. On rend chaque lieu qu'on visite, on constate les dysfonctionnements qu'on voit. Par exemple, en ce moment en prison, on sort d'une prison qui était surpeuplée à 240%. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire.
Et pourtant, on est en France. Hein,
et on est en France.
On rappelle.
À trois par cellule, des cafards, des punaises de lit, des rats. Et des gens désespérés, des suicides pas mal, parce que finalement les hommes, c'est souvent le plus d'hommes, enfin, qui sont là dans ces conditions, ils ont beau appeler au secours la nuit, personne ne vient, ils ont beau, il n'y a pas de bouton pour appeler, il n'y a personne, il n'y a pas assez de surveillants, ils ne sont pas soignés parce qu'il y a trop de monde, ils n'ont pas accès aux activités parce qu'il y en a trop peu pour le monde qu'il y a, ils appellent les juges au secours, ils demandent des permissions de sortie, ils demandent des suspensions de peine, ils demandent des mises en liberté, des libérations conditionnelles. On ne leur répond pas, il y a trop de monde. Déjà, je ne comprends pas comment des magistrats peuvent continuer à envoyer tant de monde derrière les barreaux, alors qu'il y a déjà trop de monde et que ce sont des conditions qui rendraient fou n'importe qui d'entre nous.
En fait, le magistrat les envoie en prison aussi parce que la loi est devenue de plus en plus répressive.
Je pense qu'il y a de plus en plus de délits
pour lesquels on va en prison.
C'est pas la question, c'est la question. Je pense qu'il y a un air du temps très sécuritaire.
Oui, voilà.
Et de plus en plus sécuritaire, oui, ça se rejoint, vous avez raison. Donc, nous visitons ces lieux, nous notons ce qu'on y voit. Ensuite, on envoie nos constats aux ministères concernés. Alors, la justice quand c'est les prisons, la santé quand c'est les hôpitaux psychiatriques, etc. L'intérieur, quand c'est les locaux de garde à vue ou les centres de rétention. Et puis, ensuite, notre rapport sort. Et ils sont, ces derniers temps, extrêmement sévères sur ce qu'on voit, sur la politique pénale qui est développée. Et là, dans la prison dont je vous parlais, on va faire ce que s'appelle des recommandations en urgence qui vont sortir d'ici 15 jours, même pas, pour dire à quel point c'est ignoble d'enfermer des gens dans ces conditions.
À quel point la situation est catastrophique.
Et raconter ce qu'on a vu. Mais je pense que quand les gens lisent ce qu'on a vu, puisqu'on est un œil assez impartial, dans mon équipe, il y a de tout. D'anciens directeurs, enfin des directeurs de prison, des flics, des psychiatres, des médecins, des avocats.
Des gens de tout horizon, quoi.
Tout horizon, oui. Mais passionnés par ces problèmes.
Mais alors, est-ce que vous pensez que...
Pardon.
Est-ce que vous pensez que votre travail peut avoir un impact ? Je suppose que vous le pensez, sinon vous ne le feriez pas. Mais quel impact on peut supposer avoir face à cette espèce de montagne de problèmes ?
D'abord, ce que je voudrais dire, c'est que très souvent, les choses changent. Sur place, on discute avec les équipes qui gèrent ces lieux. Dans les hôpitaux psychiatriques, par exemple, c'est très fréquent que les médecins et les soignants nous disent bah, « Écoutez, merci, parce qu'on s'était pas, on se rendait plus compte. C'est la force de l'habitude, on fait des trucs, ça ne va pas du tout. On isole les gens très longtemps, vous savez, la contention, ce que c'est, vous êtes immobilisés sur un lit ou sur une chaise sans pouvoir bouger du tout. C'est la pire des privations de liberté, je crois. C'est un des trucs les pires que j'ai vus. » On se croirait, je sais pas quand.
Au 19e siècle, oui. Dans le meilleur des cas, au 19e siècle.
C'est souvent qu'ils nous disent, écoutez, vous avez raison, vous savez, parfois c'est des petits riens, hein, ça vous paraît des petits riens, par exemple, mettre un miroir dans la chambre d'isolement. On nous dit, c'est dangereux. On dit, mettez du plexiglas, mettez un truc moins dangereux. Mais vous savez ce que c'est que de ne plus voir son visage ? Et il y a ce détenu qui est devenu un écrivain célèbre, ce Turc, Ahmet Atlan, qui a écrit « Je ne reverrai plus ce monde ». Et justement, en même temps que je visitais cet hôpital psychiatrique, j'ai lu ces phrases. Il disait « Ça fait 15 jours que je n'ai pas vu ma tête. Et quand je vais arriver à mon procès, je pense que mes proches ne me reconnaîtront plus. » C'était devenu son obsession. Et il ne savait plus quelle tête il avait. Mais c'est très déstabilisant.
Il ne savait même plus qui il était. Quoi.
Voilà. Et alors, quand on est fou, déjà, c'est... Bon. Et qu'on rajoute à la folie, à la maladie, des sources d'angoisse horribles alors qu'on est à l'hôpital censé être soigné. Quand on est contenu des heures, des jours sur un fauteuil ou une chaise, qu'on ne peut pas appeler à l'aide, qu'on ne peut pas bouger, qu'on doit appeler pour aller aux toilettes et que personne ne vient. Mais voilà, c'est un état d'abandon. Voilà. Et nous, on dénonce ça. Et très souvent, c'est sur place, en discutant avec l'équipe, puisque le rapport qu'on fait, d'abord, on l'envoie aux équipes sur place, mais on discute avec elles et on leur dit ce qu'on a trouvé qui n'allait pas. Ça s'arrange, il y a des choses qui s'arrangent. Le truc sur lequel maintenant, moi, je deviens obsédée, c'est la surpopulation carcérale. Et ça, il va falloir mettre un gros coup. Mais je pense qu'il y a de plus en plus de monde, vous savez, qui se dit que ça n'est plus possible et qu'il faut passer à un autre système, c'est-à-dire un système qui, comme en Allemagne, par exemple, ou quand une prison est peuplée à 90%, c'est terminé, plus personne n'y entre. Ou on fait sortir des gens si on veut que quelqu'un y entre. On en est loin. Les Allemands m'ont expliqué que, vu ce qu'ils avaient, qu'ils s'étaient penchés sur leur passé après la Seconde Guerre mondiale, et il y avait de quoi, ils ont institué l'article 1 de leur constitution, c'est le respect de la dignité humaine, et pour eux, c'est au-dessus de tout. Je pense qu'il faut que quand même la France se saisisse de ça et regarde ce qu'elle fait en face. Et puis j'ajoute qu'on a un président qui parle beaucoup de l'Europe, qui n'a que l'Europe à la bouche. Et je trouve assez étrange de sa part qu'il s'asseye complètement sur les condamnations nombreuses de la France pour sa surpopulation, pour ses conditions indignes de détention, ce qui rejoint le comité de prévention de la torture et des tas d'autres organisations. Je pense qu'on est beaucoup maintenant à penser ça. Même des syndicats de surveillants, vous savez. Parce que pour eux, la vie est infernale aussi. Enfin, pas aussi, mais infernale également.
Oui, bien
donc,
sûr.
Donc, on peut... Moi, ce que j'ai envie de dire aux parlementaires, pour les pousser dans cette voie, si vous n'en avez rien à faire des détenus, ben pensez au moins aux surveillants.
On vous surveille, oui, c'est ça. Ce tout sécuritaire atteint absolument tout le monde.
Oui.
Les conditions de travail des surveillants autant que les conditions de...
Et je termine, parce que maintenant, je ne voudrais pas monopoliser la parole trop, mais tout ça nous coûte, alors, oui, un pognon de dingue, comme dirait le président, c'est 110 euros jour par détenu, pour un résultat absolument minable. Puisque quand les gens sortent de là, ils sortent, vous imaginez l'état, et ils sortent...
Et visiblement, on est plus prêt à mettre de l'argent sur les dispositifs sécuritaires que sur la rénovation des prisons.
Oui, c'est exactement ça.
Donc c'est déjà un choix qui monte.
46 millions pour la sécurisation des prisons et 12 millions pour la rénovation. Alors que je peux vous dire que l'état, ce qu'on voit là, mais c'est ignominieux.
Donc ça montre, c'est des choix, des choix
politiques. Et j'ajoute que plus on sécurise, plus on rend la détention dangereuse, parce que
plus c'est difficile pour les gardiens aussi.
Bien sûr, et parce que plus les détenus vont imaginer des façons de contourner la sécurité, et plus ils vont prendre des risques, et plus ils font prendre des risques à tout le monde, et à eux-mêmes, et aux surveillants. C'est une sorte de cercle vicieux, pas du tout moral.
Et je me tourne cette fois vers le sociologue. Est-ce que, justement, les crises auxquelles on a été confrontés ou on est toujours confrontés et qui impactent la prison, je pense à la crise sanitaire et aux conditions de vie des détenus dans le contexte de la crise sanitaire qu'on connaît, est-ce que ce sont des choses qui peuvent faire évoluer notre regard sur la prison ou en tout cas le système dans son ensemble, en fait?
Alors c'est sûr qu'il s'est passé un phénomène tout à fait exceptionnel pendant le premier confinement, avec une diminution rapide du nombre de détenus, soit parce que, en appliquant des dispositifs exceptionnels, on a permis une libération anticipée de tout un ensemble de détenus, dont étaient exclus les auteurs de violences conjugales, de délinquance sexuelle, d'actes de terrorisme, etc. Mais néanmoins, donc des milliers de détenus qui sont sortis plus rapidement de prison et d'autres qui sont pas rentrés.
Comme quoi c'est possible ?
Comme quoi c'est possible, effectivement. Donc ce problème de surpopulation qui a été évoqué, il est ancien, hein, en fait. La surpopulation, elle commence dans les années 50. On ne la compte pas encore. On commence à la comptabiliser dans les années 1960. Elle commence à devenir, à être conçue comme un problème social, mais auquel on n'arrive pas à trouver de solution. Par ailleurs, il me semble que c'est effectivement très important de pointer le problème de la surpopulation, c'est peut-être pas suffisant, parce que l'instauration d'un numerus clausus, par exemple, ou dénoncer la surpopulation, c'est prendre le risque toujours, et c'est d'ailleurs ce qui se passe en ce moment, c'est de nous dire, bah, en fait, pour lutter contre la surpopulation, suffit d'augmenter le nombre de places de prison, d'accord ?
Et construire donc, de nouvelles prisons.
C'est-à-dire qu'on peut très bien mettre fin à la surpopulation en ouvrant plein de nouvelles prisons. Évidemment, le problème de la surpopulation est un problème qu'il faut prendre à bras le corps, mais il faut l'associer à une critique de l'usage contemporain de l'enfermement et réfléchir à des solutions durables, non pas uniquement de diminution de la surpopulation, mais de déflation carcérale, c'est-à-dire du nombre de personnes détenues. Et là, à nouveau, pour prolonger ce qui a été dit, s'inspirer des pays voisins, c'est toujours une bonne méthode, enfin, dépendamment évidemment des politiques qui sont appliquées chez nos voisins, mais il y a matière à s'inspirer, effectivement, sur comment réduire l'emprise carcérale dans nos sociétés et associer donc la réflexion sur la lutte contre la surpopulation à une réflexion sur les moyens efficaces d'enclencher une véritable déflation carcérale.
C'est ce qui se passe en Allemagne.
Voilà, oui, on a entendu sur l'Allemagne, il y a d'autres pays.
Non, parce qu'ils ont 88 millions d'habitants, mais 58 000 détenus. Nous avons 66 millions d'habitants et presque 72 000 détenus, là. Donc, eux, ils sont axés sur la réinsertion, les peines, les sanctions qui s'effectuent hors les murs.
Tout à fait.
Et c'est ça qu'on devrait faire.
Et donc, effectivement, durant la crise sanitaire, ce qui était impossible depuis une cinquantaine d'années, est devenu possible, au moins pendant un laps de temps donné, puisqu'en fait, l'inflation carcérale a repris son cours, chassé naturel, pénal, il revient au galop. Et donc, on a retrouvé des taux de détention, des taux d'occupation similaires à ce qui précédait la crise. Mais effectivement, les lignes ont pu bouger. On a pu se rendre compte que c'était possible. Les surveillants aussi, vous évoquiez les surveillants, Madame Simoneau, ont pu constater quand même que les conditions de travail s'amélioraient quand les ailes des maisons d'arrêt n'étaient pas bourrées à craquer. Et donc quelques lignes ont pu bouger. Malheureusement, ce débat sur la nécessité d'enclencher une déflation carcérale, on a évoqué l'Allemagne, on pourrait évoquer les pays nordiques qui ont mené quand même des réflexions assez poussées sur ces questions-là depuis déjà pas mal de temps. On peut partager effectivement l'espoir que cette vision des choses devienne un jour dominante. Ce n'est pas encore le cas chez, en tout cas, ceux qui décident des politiques pénales.
Est-ce que c'est une réflexion quand même, cette réflexion sur l'alternative à la prison qui monte un peu dans les milieux judiciaires, là où vous travaillez chacun? Est-ce que vous sentez une évolution dans la réflexion sur ce sujet-là?
Bah, écoutez, si cette réflexion était si aboutie que ça, il y aurait moins de monde en prison. Hein.
Oui.
Donc,
est-ce que dans les bruits de couloir,
musique,
ça commence,
oui, cette voilà, musique commence à être un peu entendue. Et d'ailleurs, même des syndicats pénitentiaires dont j'aurais jamais pensé qu'ils viendraient me parler de régulation carcérale, on en parle très, ils sont franco pour. Donc c'est bien que ça commence à avoir une musique, que là, ce qui se passe, c'est tellement intolérable. De toute façon, il va falloir faire quelque chose. Mais effectivement, en réfléchissant à ce qu'on fait pour que...
Et comment on le fait.
Et comment on le fait. Et qu'on rassure nos concitoyens, puisqu'il faut toujours... il faut savoir parler politiquement. Moi, c'est pas trop mon truc, mais je pense que en m'adressant comme... Je vais revoir les parlementaires bientôt pour le budget, puis j'irai voir chacun des groupes parlementaires pour leur dire voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Il faut faire ça, ne laissez plus faire ça.
Alors, on va revenir sur le sujet de cette deuxième édition de Concertina, qui est l'évasion, donc, puisqu'on a parlé prison, on sait maintenant dans quel état elles sont. Et on va faire comme tout le monde, on va chercher à en sortir. Puisque c'est quand même... l'évasion, c'est finalement entre le besoin et le fantasme, c'est les deux à la fois. Hein, mais ça concerne tout le monde. C'est à la fois les fantasmes du détenu, mais de ceux qui sont à l'extérieur aussi. C'est-à-dire qu'on a chacun notre imaginaire sur l'évasion, qui peut être très romantique, comme vous le disiez, Madame Simoneau, dans votre conférence ce matin, dans le parc de la Baume, qui peut être aussi beaucoup plus... noir, enfin le voir de façon beaucoup plus répréhensible. Voilà, chacun a son imaginaire. Est-ce que, jusqu'à quel point ça a évolué depuis quelque temps, et puis surtout comment l'évolution se traduit dans le droit, c'est-à-dire quelle image on a de l'évasion, est-ce que c'était un délit, est-ce que ça l'est toujours, est-ce que
je pense que François Abbesse il va pouvoir nous répondre, mais c'est vrai qu'en 2004, quand l'évasion a été pénalisée, on s'est tous dit, enfin...
Donc c'est bien en 2004, avec la loi
Perben. La loi Perben 2, disant, je ne sais plus si c'était Perben 1 ou Perben 2, bon bref, en tout cas c'était 2004, et disant, voilà, maintenant on pénalise l'évasion, alors que tous les profs de droit, tous les magistrats, tout ce que moi j'avais appris, en tout cas dans mes livres de droit, c'est que c'était un besoin vital, et qu'il n'y avait rien de plus humain que de vouloir s'évader, c'est pour ça que ce n'était pas puni.
C'est inhérent à l'existence de la prison, c'est-à-dire qu'une prison est faite pour qu'on s'en évade.
Oui, bien sûr, et ça donne toujours la possibilité à une personne qui est incarcérée de pouvoir imaginer autre chose que quelque chose qui va le détruire. Donc, à l'instant où même l'évasion qui n'était pas à mon époque pénalisée, ne faisait pas qu'on n'était pas condamné pour, par exemple, vol de pyjama. Quand je me suis évadé, j'étais donc bien obligé de partir. À l'époque, on était obligé de sortir nos vêtements dans le couloir, sortir nos chaussures, et on devait avoir un pyjama et une paire de chaussons pour la nuit. Et on récupérait nos affaires le lendemain matin. Et comme je me suis évadé de nuit, j'ai bien été obligé de partir en pyjama et avec des chaussons. J'ai été condamné pour vol de pyjama et de chaussons. Et bris de prison, parce que j'avais brisé la vitre blindée de ma cellule.
Donc, et ça, c'était considéré comme un délit, donc.
Donc j'avais bien un délit que le code pénal pouvait m'appliquer, mais je n'ai jamais eu un délit d'évasion.
Qui n'existait pas, donc.
Et ce qui faisait que, en fait, l'imaginaire n'est pas bloqué. C'est-à-dire que l'évasion est toujours possible, même si on ne la fait pas. Mais si le code de procédure pénale l'interdit, là, la personne est déjà en avance dans un contexte de condamnation. Et ça bloque. Ça bloque parce que ça va monter la pression. C'est-à-dire, la personne qui va se concentrer sur une évasion va dire, je vais être condamné.
Du fait de cette évasion.
Et là, je vais devoir prendre des dispositions pour réussir d'une façon plus absolue. Et donc, faire en sorte que la sécurité, la mienne ou celle des autres,
soit un peu...
Voilà, passe. Mmh. On va franchir des frontières. Moi, mes évasions, elles étaient toujours calculées pour qu'il n'y ait aucun dommage collatéral. Aucun. C'est-à-dire que tout était pensé pour que la fluidité de l'évasion, c'est-à-dire le trou que l'administration me laissait à ma disposition pour sortir, eh bien, c'était une sécurité aussi pour eux. C'était la possibilité pour moi de retrouver la liberté, la mienne, bien évidemment, celle que je fabrique. Hein. C'était pas la vraie liberté, puisque la liberté, c'est celle que j'ai aujourd'hui, de pouvoir être libre de tous mes actes et responsable de tous mes actes. À l'époque, ce n'était absolument pas la même dynamique qui m'animait. J'avais un besoin absolu de sortir de ce lieu de privation de liberté, de cette prison, et de rentrer dans la marginalité pour provoquer l'État. Puisque c'était politique aussi. je leur disais, vous avez fait une erreur, rectifiez-la, et à l'instant où vous accepterez de dire, nous nous sommes trompés, j'arrête tout. Bien évidemment, j'étais complètement dans l'erreur.
Le rapport de force n'était peut-être pas en votre faveur.
Bien évidemment, sauf que j'allais toujours, moi, jusqu'au bout, jusqu'à leur dire, ben, allez-y, tuez-moi, puisqu'il n'y aura pas d'autre solution avec moi. Bien évidemment, si j'avais été à côté de Jacques Mérine à l'époque de son exécution publique, je serais mort aujourd'hui.
Mais tu as réussi tes évasions.
Toutes.
Oui, quand même.
Et faut le dire. Et vous raconterez ça au micro de Marc Gius dans les entretiens qu'il fait ces trois jours, donc aujourd'hui et puis demain et après-demain, avec chaque fois une personne différente, un témoignage différent. Est-ce que, en étant détenu, on parle d'évasion, est-ce que l'évasion par... des ateliers X ou Y, de l'art qui rentre en prison, tout ce qui peut permettre de penser à autre chose, est-ce qu'on peut considérer ça comme de l'évasion? Parce que c'est un ersatz d'évasion, c'est juste le temps de penser à autre chose.
Alors, je peux dire que ma principale évasion, c'est lorsque j'ai pu, pendant 8 ans, travailler avec un professeur de philosophie qui m'a amené à penser et à avoir la raison comme base. Et bien évidemment qu'à cet instant-là, toute ma pensée a été modifiée et j'ai pu abandonner ce qui était des certitudes et des croyances pour quelque chose de créatif et autre. Et l'insertion dans la société, une fois que ce travail avait été effectué, a été naturelle. Je suis à l'intérieur de la société sans aucune contrainte, parce que je suis libre. Et ce n'est pas simplement parce que je respecte la loi. La loi, elle nous est imposée pour qu'on puisse vivre ensemble. C'est simple. Et une fois acceptée, on a un espace de liberté encore plus large. Donc, quand on peut rêver d'évasion sans avoir à travailler sur le fond de l'évasion, c'est-à-dire ce qui peut nous animer et nous engager véritablement, par contre, c'est ce que je viens de dire, hein, il faut être encadré. C'est-à-dire qu'on n'accouche pas soi-même de tout ce que je viens de dire. Il faut être aidé, accompagné, et puis quelque part, à un moment donné, les choses se révèlent à vous et vous êtes différent. Mais moi, je suis incapable de dire à quel moment j'ai été frappé par quelque chose. Aujourd'hui, je suis certainement différent et j'ai un regard sur ce passé qui est le mien comme homme responsable de ce passé. Il n'y a pas de souci. Sauf que je sais que je ne suis plus cette personne-là.
Et que vous avez évolué grâce au cheminement que vous avez fait accompagner.
Absolument.
Oui. Mais par contre, cet accompagnement, il est en cas de surpopulation, il n'est pas possible avec l'ensemble des détenus.
Totalement impossible.
Impossible. Trois dans une cellule, c'est même pas la peine d'y penser.
Moi, j'ai passé une heure avec trois détenus dans la cellule à bavarder. Ça fait comprendre le calvaire qu'ils vivent. Hein. Alors, je ne crois pas que en France, on en soit revenu au châtiment corporel, parce que c'est à ça que ça aboutit. Et je trouve que les magistrats devraient inscrire « Monsieur, vous avez été condamné à 6 mois ferme, que vous passerez en compagnie de rats, de cafards, de punaises de lit, avec de co-détenus, et que sans place, vous dormirez par terre, vous respirerez des cafards par le nez, vous serez obligé de vous mettre du papier toilette dans le nez, dans les oreilles, et de vous enrouler serré pour pas que les cafards vous galopent dessus. Je ne crois pas que ce soit inscrit sur les jugements.
Voilà, c'est pas inscrit non plus dans le code pénal, je crois.
Non, c'est dommage.
Et il y a aussi une chose essentielle, c'est que dans une cellule, trois personnes, il y aura un dominant.
Oui, et puis il y a des bagarres.
Et il y aura deux qui diront « je suis avec toi » contre un autre.
Oui.
Ça veut dire que la violence est là.
La violence est
obligatoire.
Et c'est obligé. Il y a tellement de tensions. Les Syriens, ils nous le disent, ils passeraient leur vie à faire des changements de cellules. Et
c'est un bizarre.
Oui, il y a des rapports de force qui s'installent.
Oui,
il y a...
bien sûr.
Eh bien, je crois qu'il va être temps de vous relâcher quand même à propos d'évasion.
Merci.
Puisque, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent encore ce soir au Parc de la Baume. Et notamment Michel Perrault qui interviendra tout à l'heure. Ou qui est en train d'intervenir en ce moment quand vous écouterez cette émission. Et qui est certainement une personne à ne pas rater aussi. Michel Perrault qui est la marraine, on va dire, la présidente de cette édition Concertina numéro 2.
Oui, voilà. Elle est super.
Mais on va s'en apercevoir. Si vous avez quelque chose à rajouter, c'est le moment. Et sinon, on se quitte sur ce dernier mot, l'évasion.
Merci.
Tout simplement. On va s'évader de notre cellule radiophonique.
Merci.
Au revoir à tous et à toutes.
Au revoir.
Au revoir.
Merci. Au revoir.